Nous sommes en décembre 2017 et vous écoutez l'épisode 92 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci, je suis toujours avec Paul Gara. Salut Paul Gara.
Salut Dédé, ça va ?
Ouais, ça va bien. Et toi ?
Bah oui, on prépare les fêtes, c'est les vacances, donc tout va bien.
Voilà. Moi, je me suis un peu remis de badminton. Mon genou va un peu mieux. Je rassure les auditeurs qui se font du souci.
Bah, il y avait une foule près de l'endroit où tu habites pour savoir avoir de tes nouvelles au jour le jour.
Voilà.
Ton bilan médical actualisé.
Voilà. Mais je voulais pas mourir maintenant et faire de l'ombre à Johnny, bien sûr.
Pour aller à tes obsèques à Strasbourg, c'est pas tout à fait aussi simple qu'aller à la Madeleine, donc il aurait fallu qu'on s'organise un peu. Donc t'as bien fait de faire ce choix de rester avec nous.
Voilà, je reste encore un petit peu.
Et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast et aussi merci à la famille Blu pour son don en nature.
Et on va commencer tout de suite par quelques actus. On va revenir sur notre précédent numéro qui a déchaîné les passions.
Oui. Les commentaires.
Oui, on a eu beaucoup de commentaires sur la chronique de Virginie.
Oui, donc beaucoup de commentaires sur la chronique Girls Just Wanna Have Fun du mois dernier, qui était donc consacrée en fait au Trick-Track d'or, et dans lequel Virginie en fait découvrait un petit peu les lauréats en direct avec nous et nous faisait part un peu de ses commentaires vu du point de vue de l'égalité homme-femme dans le jeu de société. Mmh. Donc, si on revient un petit peu sur le... On a essayé de synthétiser un peu tous les commentaires, parce que ça n'avait pas trop d'intérêt de les lire in extenso. Donc, ce qu'on a noté, c'est qu'on avait notamment Champalone qui nous disait « Il faut sortir du débat simpliste, c'est pas normal, pour s'orienter sur un débat plus mature sur l'origine du problème. L'origine est le conditionnement culturel qui enferme aussi bien les hommes que les femmes dans des rôles et des fonctions dans la société qui les empêchent d'être libres et heureux. » Alors, on est tout à fait d'accord avec toi que la question de l'origine les causes de la discrimination qui peut exister dans le jeu de société entre les hommes et les femmes est un sujet très intéressant. Mais on a plutôt l'impression que quand Virginie a fait sa chronique, l'idée c'était vraiment de faire plutôt un constat, de rester sur quelque chose de très factuel.
Voilà, c'était juste de découvrir ce qui se cachait sous les trick-track d'or, de voir s'il y avait des femmes et pour faire remarquer aux gens que voilà. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde du jeu de société, ça se voulait pas vraiment...
Oui, on n'était pas dans de l'explication sociologique des raisons, ça sera sûrement l'objet d'autres chroniques de sa part. Là, on était vraiment plutôt sur la thématique du constat et aussi de la consternation un peu, parce que c'est quelque chose, on ne connaît pas les trick-track d'or à l'avance, on découvre et le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de femmes, quasiment pas.
Ouais.
On avait une autre remarque de Suvel, qui nous disait « Elle veut combattre le sexisme et durant tout son podcast, elle dénigre le travail des femmes. » Alors, nous, on l'a écouté aussi, la chronique, et on n'a pas du tout eu ce sentiment. On a l'impression que c'était plutôt de l'ironie et du sarcasme dont elle faisait preuve pour appuyer le constat. Donc, on a été un peu surpris de ce commentaire.
Oui, elle n'a peut-être pas été bien comprise quand elle disait « Dans Wargame, il n'y a sûrement pas de femmes. » C'est pas parce qu'elle pense que les femmes... ne sont pas assez douées pour faire des wargames. C'est juste qu'elles se doutent que dans le milieu du jeu de société qui est assez général, il n'y a pas beaucoup de femmes, dans le milieu du wargame qui est très spécialisé, elle pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de femmes dans cette catégorie. Et ça s'est avéré exact, son constat. Mais c'est pas du tout, c'était pas pour dénigrer le travail des femmes,
Oui, son propos n'était pas du tout là. Hein. C'était plus le sarcasme et l'ironie encore utilisés comme un moyen pour mettre en avant le constat qu'elle faisait avec nous. Alors, il y avait un autre sujet dans le commentaire de Suveil qui était abordé, qui n'était pas directement abordé par Virginie dans la chronique, mais qui était sur tout ce qui est la question de la parité, et notamment dans le monde politique, puisqu'il faisait référence à une élection...
Des quotas et que parfois il faisait référence à une élection où une femme dans son dans un comté en Suisse, je crois qu'il nous a
Oui.
dit. Elle s'est présentée et juste parce qu'elle était une femme pour avoir la parité. Je pense pas que ce soit un exemple assez assez
Assez parlant.
représentatif.
Non, enfin, on peut dire qu'en fait, quand des lois de quotas ou de parité sont mises en œuvre, c'est pas pour dire il faut mettre une femme pour mettre une femme ou pour n'importe quelle autre, enfin, minorité, même si les femmes ne sont pas techniquement une minorité, mais si on veut utiliser, enfin, faire de l'analogie avec d'autres cas de quotas. L'idée, c'est plutôt de dire, c'est qu'il y a un groupe dominant qui est, voilà, on va dire les hommes principalement blancs, hétérosexuels. C'est voilà, c'est un peu et je pense que dans le jeu de société, c'est quand même le modèle dominant, et que de dire, bah, à un moment, on va permettre à une femme compétente d'être mise en avant, parce qu'un groupe dominant, il a tendance à reproduire son groupe, c'est-à-dire reproduire une domination de, bah là, c'est pas une domination de classe, hein, mais une domination de sexe. Donc, il va avoir tendance à aller chercher à toujours choisir par exemple, dans une liste d'autres personnes qui se ressemblent. Et c'est juste de pouvoir permettre, en forçant à un quota, une femme compétente d'avoir plus de visibilité et finalement d'obliger les hommes à aussi faire un peu de la place pour les autres, enfin pour ceux qui ne sont pas dans le groupe dominant. Donc, on ne dit pas qu'il faut mettre des femmes pour mettre des femmes, mais évidemment, ça ne fait pas sens. Mais on a bien quand même constaté que les lois sur la... En tout cas, en France, la loi sur la parité, qui doit avoir à peu près 20 ans maintenant, elle a quand même permis un renouvellement de la vie politique en mettant aussi des femmes compétentes,
Oui.
plutôt que
Même
des
si
hommes
elle n'est
incompétents.
pas, même si dans le gouvernement, je crois qu'elle est même pas respectée cette fois-ci. Enfin, ils la respectent pas forcément.
Bah après, ce qui se discute toujours,
C'est
c'est de savoir en politique, quel ministère ou quelle fonction tu donnes, parce qu'il y a des
voilà.
fonctions plus ou moins stratégiques, bien sûr, hein, ça. Mais
Voilà.
l'idée, c'est quand même de permettre à des femmes compétentes d'être mises en avant, parce qu'on sait très bien que quand on doit choisir, et ben on a tendance à choisir quand même plus ce qui nous ressemble que la personne qui est différente de nous. Et les hommes on a tous des stéréotypes en tête, hein, même les femmes, hein, et donc on va avoir tendance à choisir ce qui est le plus proche de nous, sur lequel on a le moins d'interrogations, enfin, qui représente le moins l'inconnu. Donc fatalement, je pense qu'un homme ira souvent plutôt choisir un homme, en tout cas pour un certain type de fonction. Donc voilà, la parité, c'est aussi une pédagogie, c'est de
Voilà.
en forçant un petit peu les choses, parce que les grandes avancées sociales se font souvent aussi un petit peu par des impulsions. Elles ne viennent pas forcément d'elles-mêmes naturellement. C'est
Oui.
souvent par des impulsions politiques et une volonté de mettre en avant d'autres choses.
Oui, tout à fait.
Et si on continue sur les commentaires, il y a eu beaucoup de retours aussi sur un sujet qui est très à la mode en ce moment, qui est l'écriture inclusive. Puisqu'on a dans les commentaires Champalone qui nous disait qu'il était un peu énervé sur le fait d'entendre toutes les 5 minutes le mot autrice, et qui trouvait que ça avait pris beaucoup de place dans le podcast. Et notamment, il nous donnait des exemples, enfin, un peu de l'absurdité, selon lui, à laquelle pouvait aboutir l'écriture inclusive. Bon, c'était sur le ton de la plaisanterie, hein, bien sûr. Il proposait Takenoko, on le transforme en Takanaka, ou Antoine Boza en Antoinette Boza. Et suivait, il nous disait aussi qu'il trouvait la démarche inutile, tout comme l'écriture inclusive.
Le terme autrice, voilà, on a tous compris le terme. Je vois pas en quoi c'est gênant qu'on utilise autrice plutôt que auteure,
Oui.
mais voilà.
Bah en tout cas, ça vaut sûrement pas le coup de s'énerver, hein. Franchement, c'est pas non plus très très grave. Et quant à la place que ça a pris dans le podcast, bah, on a été un petit peu étonnés aussi, parce que la chronique de Virginie, elle dure environ 5-10 minutes. Et même si on rajoute ce que nous on a dit après sur cette thématique-là, c'était 5 minutes à peu près. Enfin,
Ouais.
sur une émission de plus d'une heure.
Oui, c'est vraiment pas beaucoup, quoi.
Voilà. Et si on rapporte sur un mois d'émission, c'est une goutte d'eau, quoi, dans l'océan. Donc, et bon, après on peut parler de ce qu'est l'écriture inclusive, hein, bien sûr, mais ça c'est un sujet qui dépasse vraiment le jeu de société, mais qui est plus sur la société en général. On peut en parler, en fait,
Ouais.
de dire que l'écriture inclusive n'a jamais dit qu'on devait féminiser tous les noms juste pour les féminiser. L'écriture inclusive, elle dit juste que quand on s'adresse à une collectivité de personnes indéterminées, bah, on peut considérer que cette collectivité, elle est composée de femmes et d'hommes, et que c'est pas juste, c'est pas que de l'affichage, c'est aussi admettre que la collectivité, elle n'est pas, les femmes ne sont pas que dans la sphère du privé, les femmes elles sont aussi dans la sphère publique, dans la sphère du monde du travail, enfin, c'est un peu, c'est assez respectueux. Moi j'étais assez opposée à l'écriture inclusive il y a quelques années, tout à fait honnêtement, et plus j'y réfléchis, plus je trouve que finalement ça n'enlève rien à personne, ça ne fait que montrer un peu plus de respect envers quasiment la moitié de la population qui est la population féminine et qui contribue tout autant que les hommes dans le, enfin, enfin, j'ai envie de dire,
voilà, c'est
des termes pompeux, mais à la grandeur de la nation française. Donc à partir de là, on peut juste tenir compte d'elle quand on s'adresse à une collectivité.
Je suis content qu'on ait placé la grandeur de la nation française dans ce podcast. On en parle pas assez souvent.
Non. En fait, on a un jeu, on a tiré des expressions avec des dés, et puis il faut qu'on les place dans le podcast.
Donc, non mais oui, voilà, l'écriture inclusive, ça ne vient rien changer. Après, si on rajoute des E dans certains podcasts, dans certains mots, on l'entendrait même pas, en fait.
Non, tout à fait. Ouais. Voilà, quand on fait les accords, la plupart des mots étant en E à la fin, on s'en fout. À l'oral, ça passera. Voilà. Enfin, on survivra tous, hein. On s'y fera. Ouais. Puis bon, il y a plein de choses sur lesquelles ça nous dérange pas que la langue française évolue. Hein, quand dans le jeu de société, il y a quand même plein de termes qui sont pas du tout français, ça nous gêne pas du tout. Donc je pense qu'on peut faire des concessions là-dessus.
Mais comment on dit deck building en écriture inclusive? Parce que c'est une carte qu'on utilise.
Ouais.
Mais c'est un deck building. Je
et d'ailleurs, quand tu as une carte qui a été draftée, c'est EE. Hein, c'est faut s'y faire. Hein.
Non, mais moi, je sais déjà pas si on dit un draft ou une draft. Parce que j'entends certains chroniqueurs nous dire une draft. Alors, je vois pas pourquoi ce serait plus une draft qu'un draft.
C'est c'est comme les slides. Mécanisme de on sait draft. Jamais si on doit dire un slide ou une slide. Enfin, je sais que c'est un des débats. C'est pour ça qu'il faut dire qu'on va en faire toujours plusieurs pour être sûr au pluriel. Voilà, ça
c'est ça.
Voilà.
Ou faut regarder si leurs attributs génitaux peut-être au slide.
Ouais.
Si tu regardes tout en bas.
Mais je pense que comme c'est une diapositive en français, c'est une diapositive, donc du coup, on devrait dire féminiser, je sais pas.
On dit une diapositive, pourquoi on dit une slide? Qui c'est qui dit slide? Ça, c'est la nouvelle génération des jeunes qui disent ça, là. Oh, les jeunes.
Ouais, les jeunes, ils sont pénibles, ces jeunes. Il y a pire, hein. Il y a pire que slide encore, hein. Il y a des termes plus farfelus parfois. Hein. Bon, ça, c'était sur les commentaires un peu sérieux, on vous rassure. On a eu des commentaires plus légers, moins polémiques en tout cas.
Voilà, de Altaripa et Rexou, suite à la chronique du Pionfesseur.
Voilà, qui sont revenus sur l'historique un peu entre Puerto Rico, San Juan et Race for the Galaxy, pardon.
Où ils ont expliqué qui a la primauté sur le... Parce que le Pionfesseur, c'est peut-être un peu fourvoyé, je crois, sur qui avait qui était venu en premier dans les jeux. Donc on vous renvoie aussi vers ces commentaires.
Oui.
Et en règle générale, on vous renvoie aussi donc sur notre site podcast.proxy-jeux.fr où vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Alors quand c'est sympa, c'est mieux, mais voilà, on peut débattre parce que on le dit pas, mais nous on a répondu aussi sur le site par rapport à ces commentaires. On essaye de répondre. Chaque personne répond aux commentaires sur ses chroniques en règle générale, quoi.
Et du coup on a gardé un commentaire aussi super sympa pour la fin, donc celui de Mathias qui nous dit qu'il apprécie finalement la présentation en duo des chroniques, donc c'est-à-dire Dédé et moi. Et donc voilà, s'il trouve que ça permet aussi d'intégrer un débat dans le podcast, on le remercie beaucoup. On peut pas dire que ça nous fait pas plaisir, hein, ce serait de la fausse modestie. Et comme disait le grand philosophe du 21e siècle, José Mourinho, la modestie, Dieu nous en préserve. Donc on en profite un peu, voilà, on se fait un peu mousser.
Voilà, et on a fait un petit débat juste avant, tu vois.
Ouais.
Comme ça plaît.
Oui, parce qu'on lui avait dit qu'on essaierait d'être au niveau, alors... Je sais pas, la suite, ça va peut-être pas être du même acabit, hein, je préviens. On a tout donné, là. On a tout donné sur l'écriture inclusive, ouais.
Bah non, je suis sûr qu'on en a encore.
Ouais.
Bah du coup, on va attaquer les chroniques, là, pour ceux qui n'aiment pas nous entendre parler.
Ou pas trop longtemps, en tout cas.
Voilà. Alors, Fendoel va nous parler de Potion Explosion et surtout de son adaptation sur Android. Ben, on l'écoute tout de suite.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Fendoel. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des plateaux numériques dans lequel je vais vous parler de Potion Explosion. Potion Explosion est un jeu de trois auteurs italiens, Stefano Castelli, Andrea Crespi, Lorenzo Silva. Il a été édité chez Edge en France en 2015. Dans Potion Explosion, les joueuses et les joueurs incarnent des apprentis sorciers qui passent un examen de potion. D'ailleurs, ça rappelle étrangement l'univers d'Harry Potter avec un professeur qui s'appelle Aldebus Humblescore. C'est un jeu jouable à jusqu'à 4 joueurs. La boîte renferme alors un très gros distributeur de billes de couleurs diverses. Les billes sont les ingrédients pour fabriquer les potions. La fin de la partie survient quand l'un des joueurs prend le dernier jeton de compétence d'une pile qui dépend en fait du nombre de joueurs. Le joueur qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Alors les joueurs à chaque tour doivent prendre une bille du distributeur, et si la prise de cette bille entraîne une explosion, c'est-à-dire que deux billes de même couleur se cognent l'une contre l'autre, on récupérera toutes les billes contiguës qui ont cette même couleur. Et en fait les explosions peuvent s'enchaîner, ce qui peut rendre le truc assez rigolo. On peut aussi demander l'aide du prof, et dans ce cas-là, bon, on peut prendre une bille du distributeur, mais dans ce cas-là, ça ne déclenchera pas d'explosion. Et on aura un malus de deux points de victoire. Mais on peut le faire avant de prendre la bille précédemment. En fait, c'est une action supplémentaire. Et ça permet, comme ça, de éventuellement débloquer un petit peu une situation problématique. Une fois les billes récupérées, le joueur pourra compléter l'une de ses deux potions qu'il a devant lui et placer le reste dans sa réserve personnelle qui ne peut excéder 3 billes. Ensuite, on peut également boire l'une des potions qu'on a préalablement fabriquées, ce qui nous donne divers bonus qui permettent en général de récupérer des billes d'une façon ou d'une autre, soit en les volant à l'adversaire, soit en les prenant directement dans le distributeur. Les potions rapportent des points de victoire une fois réalisées. On gagne aussi des jetons de compétences quand on a fait 3 fois la même potion, on fait une potion du même type, ou 5 potions de type différent. Concernant le portage, il a été réalisé sur iOS et Android par Asmodee Digital, qui ont fait beaucoup de choses, Jaipur, Small World, Ticket to Ride, etc., etc. Il est à 2,99€ sur Android, 3,49€ sur iOS. Le jeu est en français, le tutoriel est un début de partie expliqué qu'on peut terminer. J'ai trouvé le tutoriel très clair, notre professeur nous donne aussi quelques astuces bien senties et son aspect rigolo est en concordance avec l'ambiance. Concernant le jeu, il est possible de jouer en local contre jusqu'à 3 humains et ou contre des IA de 2 niveaux de difficulté, soit en facile, donc pour débuter, soit en difficile pour jouer vraiment contre un adversaire relativement correct. Le jeu en ligne est aussi possible avec la possibilité d'ajouter des IA, mais uniquement si on joue contre ses amis. D'autres options sont disponibles pour le jeu en ligne, comme le choix des potions, on peut choisir les différents types de potions auxquelles on va jouer durant la partie, le fait que les parties soient classées ou non, je vois pas du tout l'intérêt de pas les jouer classées, mais bon. Et aussi on peut, plus intéressant, définir la durée maximum par joueur de la partie, donc de 15 minutes à 14 jours, ça veut dire qu'en gros avec 15 minutes par joueur, chaque joueur aura 15 minutes pour faire l'ensemble de ses tours de la partie, ce qui permet de ne pas excéder une durée de 30 minutes pour la partie. J'ai fait des parties qui duraient de moins de 15 minutes à 2, donc ça il n'y a pas de souci au niveau du temps. Je n'ai pas eu de difficulté particulière à trouver des adversaires, mais il ne faut pas hésiter à créer quand même sa propre partie en ligne. Le jeu est en 7 langues, dont le français, et il peut être également joué en accéléré. On peut jouer en x2, ce qui permet de jouer encore plus vite. On peut couper les musiques, on peut couper les bruitages. Chose rare, l'interface est bien adaptée au téléphone portable. Et le jeu se joue à la verticale, ce qui est un petit peu différent de la plupart des autres jeux. L'écran principal est très simple, partie en ligne ou non, options et autres dans lesquels on peut relancer le tutoriel, lire les règles, voir les succès, dont certains sont plutôt longs à atteindre. Faire 10 000 explosions, à mon avis, ça se fait pas du jour au lendemain. On a également accès au classement, les différents crédits et un lien pour éventuellement trouver des informations vers le jeu physique. Enjeu Asmodee Digital a pris le parti de modifier le distributeur pour le rendre plus visible. Alors, de plus, il est possible d'assigner des ingrédients aux potions manuellement, automatiquement, et de l'ajuster ensuite. Tout est vraiment bien pensé. Alors, j'avais beaucoup d'a priori avant d'essayer cette version numérique. L'intérêt de Potion Explosion n'est-il pas de jouer avec des billes et un matériel en fait qui en jette avec voilà tout ça. Et en fait, le jeu est aussi très plaisant dans la version numérique, car les aides de jeu sont bien trouvées. Et même si la notion de billes n'existe plus, hein, finalement, c'est des ingrédients qu'on va faire s'écouler, glisser. Comme ils se manipulent très facilement, la durée de l'installation qui était plutôt fastidieuse. Oui, je parle de mettre en place le distributeur qui a tendance à se disloquer une fois rangé dans la boîte. Le temps d'installation est vraiment très court en version numérique. Ça se joue vite et c'est plutôt pas mal. C'est aussi un inconvénient car le jeu est assez léger stratégiquement et donc on ne fera pas 50 parties en solo. On aurait aimé pour ça quelques scénarios et autres. Mais on y reviendra avec plaisir dans les transports. Dernier détail, je joue sur mon téléphone qui est sous Android et le jeu a tendance à me bouffer la batterie à vitesse grand V. Bref, essayez, et au cas où vous avez le problème, demandez le remboursement. Ensuite, pour moins de 3€, je trouve le prix plutôt honnête. Voilà, jouez bien, et au mois prochain!
Merci Fendoel pour cette chronique. Alors oui, potion explosion. Alors c'était un peu à l'idée, à la base, c'est un peu du Candy Crush qu'ils ont mis en jeu de plateau. Et du coup, c'est un peu naturel qu'ils en font un jeu iPhone et Android. Après, c'est pas voilà, le jeu est sympa et il y a les manipulations sont sympas aussi sur la tablette ou le téléphone. C'est assez pratique, oui, ça évite que le petit support se barre parce que leur support. Moi, j'ai la première version et elle n'était pas tip-top. Le carton qu'ils ont utilisé, il n'était pas forcément bien découpé. Donc, c'est pas toujours pas pratique pour que les billes, elles passent. Mais au moins, sur l'application, il n'y a pas de souci. Et on vous rappelle, tu avais vu des promos aussi ?
Ben oui, justement, on a reçu un... Enfin, moi, j'ai reçu un mail d'Asmodee Digital aujourd'hui même, comme quoi voilà. C'est bien fait. Hein. Il devait le savoir.
Ouais, il savait qu'on enregistrait.
Voilà. Et enfin, en tout cas, apparemment, il y a des offres sur sur les jeux. Ils disaient des prix givrés jusqu'à moins 70%, donc voilà. Mmh. Et en regardant juste avant, j'ai vu que Potion Explosion était à 1,99€ sur l'App Store. Donc, et ce serait jusqu'au 4 janvier, donc ça vaut peut-être le coup d'en profiter.
Voilà, vous l'aurez encore quand vous écouterez cet épisode. Vous aurez encore le temps d'acheter des jeux Asmodee. Et du coup, on va enchaîner avec Si le jeu m'était compté, qui se prend pour Alexandre Astier un petit peu.
Ouais, on est un peu... on est entre les Monty Python et Kaamelott, là, effectivement.
Voilà, il nous emmène dans le monde de Kaamelott pour parler de Majesty. Eh ben, on va l'écouter tout de suite.
J'ai l'histoire. Il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer.
Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur. Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil.
Moi, je dessine les animaux.
Je t'envoie des iguanes. C'est extraordinaire.
Ah oui, quel beau monstre. Je me suis fait un petit costume simple et sympa.
Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir ?
Vous êtes prêts ?
Oui !
Si le jeu m'était compté...
Oyez, oyez, désormais c'est ici et uniquement ici que vous ferez le marché de votre royaume. Veuillez vous avancer et faites votre choix.
Hé, mon brave, donnez-moi le balèze là.
Psy, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là ?
Hé, oh, qu'est-ce que vous faites ? Ben, je prends le balèze là. Le gars là, il nous demande de faire un choix, alors j'ai fait le mien. Non mais, il y a des règles, hein. Vous pouvez pas débarquer et choisir qui vous voulez comme ça.
Ah bon ?
Ça se passe comment alors ? Comme à chaque fois, à tour de rôle, on va choisir une personne qui défile au nombre de 6 sur l'estrade et celles-ci vont rejoindre nos rangs.
Ah, ok.
Bon ben moi je vais prendre le balèze là-bas. Vous n'êtes jamais venu, vous, hein? Bah, c'est-à-dire que d'habitude, c'est Pendwick qui vient, mais au dernier combat, il s'est fait écraser, alors voilà, quoi. Ok, je veux bien être mon prince pour cette fois. Vous connaissez déjà la constitution de votre royaume? Ben, il y a le château, et puis... Ouais, bon, c'est pas gagné. Depuis le décret des égalités sur les royaumes, nous sommes tous tenus d'avoir les mêmes lieux constituant notre royaume. Nous devons tous avoir, et exactement, un moulin, une brasserie...
Quoi? Une seule brasserie? Veulent ma mort?
Parce que vous allez souvent dans des brasseries, ou...
Oui, enfin... Non, enfin... Moi, je vais tout le temps chez GG.
Ce serait pas une taverne, ça?
Ah oui! Maintenant que vous le dites...
Bon, disais... Une brasserie.
Quoi? Une seule brasserie?
Non, non, je déconne, hein. Allez-y, allez-y. Une herboristerie de sorcières.
J'aime pas les sorcières, moi. Vous aimez, vous?
Je sais pas, enfin... Bref, c'est pas la question. Feriez bien d'aimer, car elle pourrait bien vous aider, hein.
Ah, très bien. Bah alors, je vais prendre la sorcière, mon brave.
Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, je disais, une herboristerie, une tour de guet.
Ah tiens, c'est marrant, c'est justement là où je me trouve d'habitude.
Ah oui, c'est intéressant, ça, dis donc, hein. Vous voulez que je vous explique ou vous allez encore m'interrompre comme ça tout le temps?
Non, non, allez-y, promis, je dis plus rien.
Bon, une caserne pour les guerriers.
Bah, c'est-à-dire que moi, on me l'a refusé.
Pardon?
Bah oui, la caserne. On m'a dit que je ne serais pas assez affûté.
Futé, vous voulez dire, non?
Non, non, ils ont dit affûté.
Ouais, bon, comprends mieux pourquoi.
Pardon?
Non, non, rien, c'est pas grave. Ah, et ensuite, une taverne.
Ah oui, celle de GG. C'est fini, oui? Vous voulez comprendre ou pas?
Ah oui, oui, pardon. Et enfin, un château et une infirmerie. Vous n'allez pas tarder, à mon avis, à aller directement si vous continuez à m'emmerder.
Bon, bah super. Bon, bah maintenant, je vais prendre le balèze. S'il vous plaît? Mais non! Mais non! Des règles, je vous dis! C'est pas à vous! Vous n'aviez pas terminé?
Non. Ça vous étonne? Bon. Désormais, nous nous affrontons en 12 manches. Et nous devons recruter chaque personne à mettre dans notre royaume à ce marché.
Ah, très bien.
Et nous devons le faire suivant un raid spécial. Est-ce que vous avez vos petits meeples sur vous?
Ah, vous voulez parler de ces petits bonhommes de bois ridicules qu'on m'a donnés? Moi, je joue aux osselets avec. Vous connaissez?
Ouais.
C'est bien, hein? Vous voulez faire une partie?
Oui. Enfin, peut-être. Non, c'est pas la question. Bref, on s'en fout. Vous voyez donc devant vous que vous avez 6 personnes que vous pourriez recruter. Chacun notre tour, nous allons choisir une de ces personnes présentées sur cette estrade. Mais attention, si jamais vous voulez le balèze qui se trouve en 3ème position, vous devrez payer 2 meeples que vous avez en votre possession.
Ah, c'est à ça que ça sert? C'est complètement idiot, hein. Alors qu'avec les osselets, on s'en fout de vos osselets. Suivez-moi, bon Dieu. Bon, si jamais vous voulez prendre la sorcière qui est en premier. Ah non, vous l'avez vu? Elle est toute ridée.
Oui, bon, elle pourrait vous être utile, je vous dis, hein.
Ah oui? Oh ben, si elle vous plaît, vous prenez-la, hein. Moi, je veux pas d'une vilaine comme ça dans mon royaume.
Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas besoin de payer de meeples pour la prendre. Par contre, si jamais quelqu'un y a déposé auparavant des meeples dessus, vous prendrez bien sûr les meeples dépensés des autres.
Ça a quand même l'air moins fun que les osselets, quand même, hein.
Sœur Dagon, c'est à vous.
Oui. Je vais prendre la sorcière, s'il vous plaît. Merci.
Ben, vous êtes gonflé, vous? Prenez la sorcière, là, que vous me disiez de la prendre.
Je n'ai pas dit qu'il fallait la prendre. J'ai dit qu'elle pourrait vous être utile. Nuance.
Ouais, mais quand même, hein. Moi, je sais plus quoi prendre, maintenant, moi.
Tout dépend de ce que vous avez dans votre royaume.
Comment ça?
Ah oui, parce qu'avec toutes vos conneries, vous ne m'avez même pas laissé finir de vous expliquer.
Ah, pardon. Vous disiez?
Commençons par le moulin. Chaque fois que vous recrutez une meunière, vous remportez 2 pièces.
2 pièces seulement?
Oui, c'est comme ça qu'on départage les royaumes désormais. Bon, je disais... Ah oui, si vous recrutez par exemple 2 meunières, vous remporterez 4 pièces.
C'est clair, non? C'est pas foufou non plus, hein?
Oui, bah attendez la suite. Passons maintenant à la brasserie. Chaque fois que vous y déposerez un brasseur, vous remporterez 2 pièces plus un petit meeple.
Moi, j'irai surtout boire 2 fois plus, hein?
Ouais, je laisse tomber. Vous êtes une cause perdue.
Non, 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 non. Excusez-moi, excusez-moi. Continuez, sœur Dagon.
Passons à l'herboristerie des sorcières.
Ah, la vieille ridée que vous avez recrutée?
Ouais, et je vous disais qu'elle pourrait vous être utile. Vous remporterez 2 pièces par meunière, brasseur et sorcière dans votre royaume.
Ah bah, c'est déjà mieux que le reste?
Oui, mais vous comprenez aussi qu'il vous faudra des meunières et des brasseurs aussi pour remporter plus de pièces.
Ah, ouais.
Bon, maintenant passons au nerf de la guerre, la garde. Chaque garde que vous recrutez dans votre royaume vous rapportera 2 pièces par garde, chevalier et tavernier dans votre royaume.
Je le dirai à GG, ça. C'est lui qui va être content. Il manque toujours de monde, alors... C'est fini, oui. Si vous voulez vraiment une explication, laissez-moi vous parler. Sinon, moi, je me casse. Bon, maintenant, les chevaliers. Chaque fois que vous en recruterez un, vous remporterez 3 pièces.
La classe !
Attendez, il y a mieux. Au château, chaque fois que vous recruterez un noble, vous remporterez 5 pièces plus un petit meeple.
Ah ouais, quand même !
Et enfin, par contre, les mauvaises nouvelles. Chaque fois qu'un de vos sujets se retrouvera à l'infirmerie, vous perdrez 1 pièce.
Oh bah ça, c'est pas grave, je leur dirai de faire attention, hein, voilà tout.
Vos sujets pourront aller à l'infirmerie, que vous le vouliez ou non. Hein.
Ah bon ? Comment ça ?
Bah c'est là que rentrent en jeu les compétences spéciales.
Ah, oh, mais moi j'ai une super technique spéciale. Vous voulez que je vous la montre ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que je m'en fous. Suivez un petit peu. Bon, je disais les compétences spéciales. Commençons par l'attaque. Chaque fois que vous ou un de vos adversaires ajoute un guerrier dans son royaume, cela déclenche une attaque entre les royaumes voisins. Mettons que c'est vous qui attaquez. Si jamais vous avez plus de guerriers qu'il n'a de garde, vous remportez le combat et alors votre adversaire doit envoyer à l'infirmerie la personne la plus à gauche dans votre royaume.
À gauche de quoi ?
Oh là là, enfin vous n'avez toujours pas compris ? On a tous le même royaume dans cet ordre. Moulin, brasserie, herboristerie, tour de guet, caserne, la taverne, le château et l'infirmerie. Eh bien réfléchissez un petit peu. Si vous avez plus de chevaliers que votre adversaire, cela veut dire qu'il n'a pas assez de gardes pour sauver vos sujets. Ça veut aussi dire que quand ils débarqueront dans le royaume de votre adversaire, ils trouveront sur leur chemin d'abord des meunières, si vous en avez, puis des brasseurs, etc. Par contre, dans un souci d'équité et pour éviter les boucheries qu'ils ont dit, il a été décidé que nous ne pouvons en tuer qu'un seul.
Blessé, vous voulez dire ?
Oui, blessé, effectivement. C'est vraiment devenu un pays de chochottes, je vous jure. Maintenant, si jamais vous n'auriez eu pas assez de chevaliers par rapport à ces gardes, bah l'attaque serait avortée, quoi.
Et l'autre compétence spéciale ?
Haha ! Vous êtes surpris, hein ? Vous voyez que je suis, finalement ? Ouais, je dois avouer que c'est un miracle. Bref, l'autre capacité spéciale se déclenche quand vous recrutez une sorcière. Si jamais c'est le cas, cette dernière prononcera une incantation et vous pourrez guérir un de vos sujets à l'infirmerie. Il reviendra alors automatiquement dans votre royaume. Vous voyez pourquoi ça peut être sympa de prendre une sorcière, hein.
Il n'empêche, elle est toute ridée quand même, hein.
Et ça s'arrête quand ?
De quoi ?
Vos conneries.
Ah, je sais pas, moi.
Pour chaque sujet dans votre infirmerie, vous perdrez donc 1 pièce.
Pas cool !
Vous comptez ensuite le nombre de lieux où vous avez des sujets, et vous multipliez ce nombre par lui-même pour obtenir un certain nombre de pièces. Par exemple, vous avez des sujets dans 6 lieux différents, vous obtiendrez 36 pièces. 6 fois 6. C'est simple, non ? Enfin, vous ajoutez à cela les pièces de majorité.
Ah, c'est quoi ça ?
Bien. Si vous êtes celui qui a le plus de meunières dans votre royaume, vous obtiendrez 10 pièces supplémentaires, par exemple. Enfin, vous comptez également les pièces qu'il vous reste en fin de partie. Bah bon, je doute que vous en auriez beaucoup. Et donc, celui qui a le plus de pièces à la fin remporte les débats.
C'est quoi ça, Majesty ?
Bah c'est notre système de combat.
Yeah ?
Celui que je viens de vous expliquer.
Ah d'accord, je savais pas qu'il avait un nom.
Bah là où nos voisins d'Italie ont ce qu'ils appellent Splendor, qui pourtant a été introduit par le même individu en la personne de Marc-André, est certes plus stratégique et complexe, autant le nôtre baptisé Majesty puise sa force dans sa simplicité et sa fluidité. Il est très malin, un peu calculatoire, rapide, plusieurs types de stratégies essayées cela dit. On ne s'éparpille pas. Bref, il paraît qu'on passe un agréable moment.
Et c'est qui a décidé de mettre ça en place au final ?
Bah, un certain groupe, Hansim Gluck, aurait acheté le concept de Marc-André et aurait décidé de le mettre en vente dans tous les royaumes. Enfin, de l'éditer, comme ils disent. On pourrait même le trouver chez un vendeur nommé Philibert pour la somme de 26,90€.
Oh, c'est tout ce qu'on représente ! C'est pas beaucoup !
Pas cher, hein ?
Oh, bah, pas cher du tout !
Ah, tenez, je crois que c'est à vous.
Et vous me conseillez quoi, maintenant ?
Si vous voulez mon avis, vous devriez prendre le balèze, là. Grâce à ça, vous pulvérisez tous les royaumes voisins.
Donnez-moi le balèze, là !
Très bien. Le royaume de Galad remporte un combat contre le royaume de Sœur Dagon.
Mais c'est pas votre royaume, ça ?
Ben si. Je savais pas que vous étiez contre moi. Attendez, je vais porter réclamation.
Oh ! Hey !
Je vous laisse, hein. Jouez bien. Viens là, toi. Bon. Je me pose quand même une question. Il risque quand même d'être à l'étroit si je recrute autant de monde dans chaque lieu de royaume. Et puis GG, il sera pas content quand il aura plein de concurrents à lui dans sa propre taverne. Moi je dis, tout ça, c'est déloyal.
Merci à Suijeu pour cette chronique. Et toujours une ambiance. On est, on part avec lui. Là, on n'a pas voyagé dans l'espace, mais plus dans le temps.
Dans le temps, ouais. Mais tu vois, il est là, on avait de la l'info. On disait la campagne anglaise, peut-être. Et en fait, voilà, on y est presque là. Hein. En tout cas, le jeu a l'air top. Hein. Enfin, voilà, moi, j'y ai jamais joué, mais
moi non plus. Moi, j'en ai même jamais entendu parler. Donc, je vais du coup. Aller voir un peu de quoi il en retourne.
Non, ça a l'air vraiment bien et si j'ai été sage, le Père Noël me l'apportera à Noël.
Ah, bah j'espère que t'as été sage.
Toujours.
Bah, s'il écoute, il saura qu'il faut te l'apporter. Parce que je crois qu'il écoute. D'ailleurs, il a même participé à notre dernier épisode, le Père Noël.
Mais même, il me semble que je l'ai entendu plusieurs fois chez vous. Avant de participer dans d'autres saisons, il me semble bien d'avoir entendu le Père Noël plusieurs fois. Donc...
Voilà.
Enfin, on me dit qu'il n'existe pas, mais c'est pas vrai en fait.
Bah, c'est pas vrai, tu vois.
Puisqu'il a participé au podcast, voyons.
Voilà,
personne
il participe
pourrait l'imiter.
À notre podcast. Bah oui. Ok, bon, on va enchaîner sur un jeu d'un autre style.
Ah oui.
Alors c'est Dany qui va nous parler de Body Boggle. On va l'écouter tout de suite.
Salut à tous, nous sommes fin décembre, il va bientôt falloir trouver des jeux pour amuser tous vos amis entre le fromage et le dessert le soir du 31. Bon, en vrai, c'est sûr qu'à ce moment-là, tout le monde aura peut-être déjà bien assez bu pour ne plus être vraiment en capacité de jouer. Quoique, vous pouvez peut-être tenter un quelque chose qui vous permettra de vous étirer un peu, à savoir le Body Boggle. Bien sûr, le Boggle vous dit quelque chose. Sorti dans les années 70, Boggle est un jeu de mots et de dés. Vous secouez une boîte pleine de dés, ils se rangent tous gentiment pour montrer 16 faces visibles, et vous composez le plus de mots possible avec les lettres qui apparaissent. Et il se trouve qu'un dérivé de ce jeu a été créé pour vous permettre de faire un peu d'exercice. Dans le Body Boggle, vous jouez en deux équipes. Une équipe tire une carte sur laquelle se trouvent 5 mots. Un des joueurs choisit un mot et l'épelle. Les autres joueurs de l'équipe doivent alors composer le mot avec leurs pieds et leurs mains sur un tapis où les lettres sont imprimées. Là, normalement, vous pensez à Twister et vous avez bien raison. On est vraiment sur le même principe que Twister, et j'avoue que finalement, je sais pas trop si c'est une bonne idée d'y jouer à la Saint-Sylvestre. Disons qu'il faut rester assez en forme pour ne pas rendre son apéro et ses petits fours, une fois la tête en bas au-dessus de la fesse du frère de votre pote qui s'est tapé l'incruste, pendant qu'on vous tient les pieds. Mais dans un autre contexte, ça reste un jeu rigolo qui permettra aux plus petits ou aux fans de langage SMS de réviser leur orthographe. La première équipe qui atteint les 20 mots bien exécutés gagne la partie, mais rien ne vous empêche de vous arrêter à 10 mots. Ça sera déjà un bon début. Body Boggle est sorti en 84 chez Parker. Alors non, vous ne le trouverez pas chez nos amis de Philibert. Cela peut être un bon objectif de brocante du dimanche matin ou une commande pour Papa Noël 2018. Dans tous les cas, n'oubliez pas de motiver vos invités à faire une petite partie d'un jeu de votre choix. C'est bon pour les méninges et la récupération. Et d'ici là... Jouez bien.
Alors merci Dany pour cette chronique. Alors Body Boggle, on peut faire un peu du Twister et du Boggle en même temps. Ça a l'air sympa. Je sais pas comment se finissent ces fêtes de.
Mais, je pense qu'ils ont des fêtes de fin d'année. Ouais. Non, je sais pas. Moi, quand j'ai fait, pour avoir vu la photo que vous verrez si vous allez sur le billet sur notre site. Je me suis demandé si c'était vraiment un jeu pour toute la famille, mais bon, c'est un avis personnel.
C'est les jeux pour adultes. Mais elle nous a dit la dernière fois qu'elle regardait les jeux pour adultes.
Voilà. Donc,
dans l'interview de Ravensburg.
Donc on est bien dans la thématique. Hein. Vous verrez la photo, vous comprendrez pourquoi. C'est pour ça que moi, je fais ce genre de jeu. De toute façon, pour ça que je ne peux pas proposer d'y jouer en famille avec mes grands-parents. Et en plus, pour des raisons de stabilité des personnes en question. À 90 ans, tu ne peux pas jouer à ce jeu de toute façon.
Ouais, bah ouais, voilà, avec moi qui suis blessé, je vais peut-être pas y arriver non plus.
Avec ta béquille, remarque, tu peux faire une lettre en plus.
Ah oui, ça fait une lettre en plus.
C'est sournois quand même. Hein.
Ouais. Moi, j'aime bien le Boggle. Moi, je suis assez fan du Boggle.
Tu me l'avais dit une fois.
J'avais déjà avoué cette faiblesse pour le Boggle.
Ouais. Bah moi ceci dit j'en ai un mais j'ai pas dû y jouer depuis au moins 30 ans donc...
Ah bah voilà.
En fait je l'ai eu je savais pas écrire donc puis depuis j'ai pas joué. C'est pour ça que j'ai jamais aimé le jeu en fait.
Ah bah c'est... Mais alors le Boggle en écriture inclusive, est-ce que ça marche ou
Ah, techniquement, on peut te l'accorder. D'ailleurs, je me demande au Scrabble aussi. Si...
Ah, bah oui, au Scrabble, comment ça marche l'écriture inclusive?
Bah, tu dis maintenant, on devrait accepter. Hein.
On va se renseigner auprès de la Fédération française de Scrabble pour voir sur
s'ils acceptent.
Mais est-ce qu'ils acceptent les nouvelles orthographes aussi? Tu vois, le genre le oignon sans le G. Est-ce qu'ils l'acceptent aussi?
Ça, je suis pas sûr.
C'est un sujet à creuser.
Ouais.
Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On va pour savoir quelles règles au Scrabble vous utilisez. Du coup, on va enchaîner avec un jeu qui n'a rien à voir. C'est Topiary. Cyrus nous en a déjà parlé dans les jeux du mois. Et du coup, le pionfesseur, il enchaîne pour nous parler des jeux à ligne de vue. On va l'écouter tout de suite.
Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur et si vous suivez activement notre podcast Proxy Jeux, vous avez sûrement remarqué que Cyrus a récemment chroniqué le jeu Topiary dans sa chronique Jeu du mois. Si ce n'est pas le cas, je vous laisserai de toute façon le lien dans le billet de cet épisode pour que vous puissiez aller l'écouter. Je ne vais donc pas répéter tout ce qu'il a dit sur Topiary. Moi, ce qui m'intéresse en particulier dans ce jeu, c'est la manière dont il aborde cette fameuse mécanique de ligne de vue. Et pour parler de cela, on va remonter un peu dans le temps et revenir à une époque antérieure aux jeux de société modernes, les années 70. En effet, lors de cette décennie, c'était l'âge d'or des wargames, ce style de jeu où l'on reproduit des grandes batailles de notre histoire ou parfois dans des univers fictifs, mais qui se veut avant tout être très réaliste. C'est donc assez logiquement dans ce genre de jeu que les mécaniques de ligne de vue étaient déjà bien présentes et instaurées. L'idée de ce genre de mécanique étant qu'à partir du moment où une de vos unités tirait à distance sur un ennemi, alors notre unité doit pouvoir voir cet ennemi. L'expression la plus simple d'une mécanique de ligne de vue étant de tracer un trait imaginaire entre la case de notre unité et la case de l'unité adverse, et de vérifier que ce trait ne traverse pas un obstacle qui bloque la ligne de vue. Je dis bien la plus simple, parce qu'avec les wargames ça peut tout de suite devenir beaucoup plus compliqué à niveau règles. Mais disons que là on a l'idée basique de la mécanique. On va par la suite retrouver les systèmes de ligne de vue dans ce qui sera les enfants du wargame, comme les débuts du jeu de rôle, le jeu de figurines, ou encore les jeux de société modernes qui ont modernisé le wargames. Je pense notamment au désormais classique Mémoire 44. En gros, n'importe quoi où on aura des personnages qui bougent dans un espace défini et qui peuvent se tirer dessus. Et ça doit vous sembler un peu évident tout ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est vrai que c'est une mécanique tellement logique et intuitive que ça semble normal de l'avoir dans tous ces genres de jeux. Néanmoins, je vous dis tout ça pour mettre en évidence deux choses. Premier point, la mécanique de ligne de vue est devenue tellement un code dans tous ces jeux que ça fait d'autant plus plaisir de voir les rares exceptions qui essayent d'aller à contre-courant et de trouver d'autres mécaniques pour simuler les champs de vision des personnages. Je pense notamment à Heroescape, où le joueur doit se mettre lui-même derrière la figurine pour voir ce qu'elle peut voir. Ou encore à Tannhäuser, qui utilise un système de code couleur sur les cases pour déterminer qui peut voir qui. Et deuxième point, on ne retrouve des mécaniques de ligne de vue quasiment que dans des jeux avec de la baston dedans. Et c'est là que va intervenir un jeu très original, Skyliners, un jeu abstrait sorti en 2015 et qui utilise des mécaniques assez similaires au jeu Manhattan. Skyliners, c'est un jeu où l'on va construire des tours et qui centrera sa mécanique autour d'un nouveau type de ligne de vue, un peu plus complexe, qui joue sur les hauteurs des bâtiments. Chaque joueur est situé à un des quatre bords du plateau et scorera des points pour chaque bâtiment qu'il voit depuis son bord. Il n'y a pas ici d'obstacle. Pour voir un bâtiment, il faut que les bâtiments situés devant lui soient plus petits. Si j'ai un bâtiment de taille 4, il va cacher tous les bâtiments de taille 1, 2 ou 3 qui sont derrière lui. Un jeu doublement innovant donc, qui aura à la fois un système de ligne de vue novateur, mais qui est, il me semble, le premier jeu à utiliser des lignes de vue ailleurs que dans un jeu avec des personnages qui se tirent dessus. Et donc, Topiary a repris le système de vue de Skyliners, avec ses systèmes de hauteur, sauf qu'ici on place des meeples autour du plateau et que c'est ces meeples qui vont devoir essayer de voir un maximum de tuiles. Mais je trouve que Topiary exploite de manière plus intéressante cette mécanique, car il ajoute un peu d'aléatoire, ce qui rend le jeu moins prise de tête et donc plus fluide, et par extension plus familial. Skyliners a inventé la mécanique, Topiary l'a sublimée. D'autant plus quand on voit les buzz récents comme Splendor, King Domino, Century, Topiary va vraiment s'inscrire dans le même registre. Un jeu simple avec ce qu'il faut de hasard et ce qu'il faut de stratégie. A noter qu'en même temps que Topiary est également sorti Photosynthesis, qui utilise lui aussi un système assez similaire de ligne de vue, avec nos arbres qui pourront faire de l'ombre à d'autres arbres plus petits, situés dans la même ligne de vue que eux. Néanmoins, Photosynthesis est aussi un jeu abstrait, du moins selon ma définition du jeu abstrait. Et donc Topiary me semble débroussailler un terrain un peu plus inexploré. Toujours est-il que c'est intéressant de voir que Photosynthesis comme Topiary sont parmi les premiers jeux à utiliser des mécaniques de ligne de vue dans des jeux qui ne sont pas des dérivés des wargames. On peut se demander alors si l'on ne va pas voir dans les années à venir des styles de jeux que l'on connaît se mixer avec cette mécanique naissante. Pourquoi pas un jeu de gestion avec des lignes de vue, ou bien un jeu de draft avec des lignes de vue. Il y a sûrement plein d'idées à creuser, et d'ailleurs peut-être que je me trompe et qu'il existe aussi d'autres jeux que j'ai complètement oubliés qui utilisent aussi ce genre de système. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et ce sera tout pour cette petite chronique. En attendant, je vous dis, jouez bien!
Alors merci le Pionfesseur pour cette analyse des jeux à ligne de vue, en particulier ouais, les wargames. Moi je me souviens, j'ai fait des wargames et je me souviens avoir mis la tête derrière la figurine pour dire « Si, si, regarde, mets-toi comme ça au niveau de ma figurine, tu vois qui voit la ta figurine, je peux te tirer dessus. » C'est un peu... Mon rêve, ça aurait été d'avoir un laser, tu vois, les petits lasers rouges, tu vois, pour mettre derrière la figurine et dire « Hey, tu vois, paf, je peux pointer ta figurine. »
Mais... En fait, mais une ligne droite, ça figure pas vraiment la vision d'un œil. Enfin, je sais pas. Il faut un truc un peu en cône, non, pour vraiment pour ah ben, bien ça faire.
Ça dépend avec quoi tu tires.
Oui, mais bon, enfin, ton champ de vision en lui-même, non?
Ah.
C'est plus un.
Ouais, mais si tu mets ta tête derrière la figurine, toi, tu axes la figurine avec l'autre figurine et tu regardes si elle est entre les deux.
Il y avait un problème d'échelle, non, entre la taille de ton œil et la figurine. Pas,
oui, c'est peut-être ça le.
Que ton œil à côté de la figurine, c'est un peu l'œil de Sauron, tu vois, il est un peu. je sais, comme j'ai jamais fait, comme je suis une fille, j'ai jamais fait de wargame forcément, donc.
Mais non, mais tu casses tout ce qu'on vient de dire avant, que les filles elles peuvent faire du wargame.
Non,
oh
je
là
plaisante.
Là.
Je plaisante, mais je sais pas si Warhammer ça compte. Non, mais moi je prends des figurines de Warhammer, alors. On peut dire que je suis un peu.
Mais Warhammer, c'est totalement du wargame.
Bon, bah, je... Voilà, tu vois, ça sauve l'honneur. Alors, j'y ai pas joué, mais je peins les figurines pour d'autres.
C'est déjà pas mal. Voilà. Bah, la prochaine fois que tu peins une figurine, tu mettras ta tête derrière.
Ouais, je te dirai si je vois bien ou pas.
Voilà.
Faut pas que ta figurine soit myope, hein, du coup, parce que sinon tu vois moins bien, forcément. Mais il y a pas ce genre de considération.
Hein. Mais normalement, si c'est une figurine d'archer ou de quelqu'un de tireur d'élite, on suppose que le tireur d'élite n'a pas de problème de vue, quoi.
Sinon, non, il a un œil de lynx. Et...
Voilà. Sinon, il a peut-être un malus sur son jet de dé. Mais...
Et toi, Topiary, tu as joué à Essen, hein, non?
Ouais, moi, je l'ai testé à Essen. Je vais avouer que j'ai pas encore eu le temps d'y rejouer depuis. Mais,
malgré tes semaines et tes semaines d'inactivité.
Bah oui, j'étais les semaines d'inactivité, mais en fait, mon épouse, elle continuait à aller travailler. C'est bien ça le problème, c'est que tout seul, du coup...
Ouais, t'aurais dû lui faire un mot pour dire qu'elle ne pouvait, pouvait pas venir en attendant.
Ah voilà. Alors bon, quand j'étais jeune, je jouais tout seul en passant d'un côté à l'autre de l'échiquier ou du jeu de société, mais là, j'ai passé l'âge de ça.
Bah, passé un certain âge, on pense que t'as des troubles mentaux sinon, donc...
Voilà, c'est ça. Non, mais je me souviens des coups que j'ai prévus, du coup, ça marche pas trop bien. Et j'arrive pas à me bluffer.
Tu te disais à toi-même, j'ai déjoué tes plans. Non,
ouais, c'est ça. Comme je parle de mon enfance, on va continuer avec les jeux pour enfants et ta chronique, ouais. De quoi tu vas nous parler?
Donc ce mois-ci, en fait, je suis repartie de jeux qui utilisent des mécanismes très, très classiques, de jeux qu'on connaît tous, de jeux de cartes notamment qu'on connaît tous. Mm-hmm. Donc je vais vous laisser découvrir, bien sûr, faire un peu de teasing. Et puis de voir comment des jeux classiques sont en fait repris par le jeu de société moderne et puis évidemment améliorés, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je vous laisse écouter et découvrir les jeux en question.
Ok, bon, on va écouter ça tout de suite.
Maman, je m'ennuie.
Tu veux qu'on fasse un jeu?
Oui, tout sauf le Monopoly.
Tu connais Marrakech? C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux.
Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses, je suis Paul Gara, et pour cette chronique destinée aux joueurs nés ce mois-ci, je vous propose deux jeux de société destinés aux enfants de moins de 10 euros. Non, à moins de 10 euros, comme quoi les mots ont de l'importance. Et oui, moins de 10 euros, ça fait du bien pour les finances, car après les fêtes de Noël et avant le premier tiers de l'impôt sur le revenu, les finances souffrent, et il n'y a aucune contrepétrie dans cette phrase. Des jeux très abordables donc, mais aussi des jeux qui reprennent des mécaniques ultra classiques de jeux de cartes traditionnels.
Et quand je dis jeu de cartes traditionnel, je parle de jeux pas forcément folichons sur le papier. Et oui, car comme le dit l'adage populaire, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Sans contrepétrie non plus. Et pas mal de jeux de société recyclent ainsi les bases de jeux bien connus du commun des mortels, et pas seulement des amateurs de jeux de société modernes. Mon premier choix est donc un jeu qui reprend à l'identique un classique de jeu de cartes pour adolescents, à savoir le Pouilleux, personnifié par ce brave valet de pique répondant au doux prénom de Ogier. Ce jeu, c'est Mistigri, édité par Djeco, un jeu compétitif accessible aux adolescents à partir de 4 ans. Et oui, maintenant, les temps changent. À 4 ans, on est déjà adolescent. Il est disponible chez Philibert pour un prix de 7,50€ et se compose uniquement de 33 cartes. 16 paires de cartes représentant chacune un animal, une paire de lapins, une paire d'écureuils, une paire de poissons, etc., etc., et une carte unique représentant un sympathique chat, le fameux Mistigri. Comme dans le Pouilleux, il s'agit ici de faire des paires, P-A-I-R-E-S, et surtout de ne pas se retrouver à la fin de la partie avec le Mistigri entre les mains. On mélange les cartes, on les distribue, on défausse ses paires, puis à son tour, on pioche une carte dans la main de son voisin de gauche. Que ce soit sa mère, qui a peut-être les yeux pairs, P-E-R-S, ou son père, P-E-R-E. Une paire, on défausse les cartes, sinon on attend patiemment. Celui qui perd, P-E-R-D, est celui qui, à la fin de la partie, a entre les mains le Mistigri, alors que tous les autres joueurs se sont débarrassés de toutes leurs cartes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une révolution du jeu pour enfants. Toutefois, Mistigri est une valeur sûre en ce qu'il recycle une mécanique ultra connue, tout en la rendant plus fun pour les petits. Les illustrations de Djeco sont très jolies et très évocatrices pour de jeunes enfants, bien plus que ne le seraient de simples cartes à jouer. On peut donc le dire, ici, tout est dans le skin. Niveau apprentissage, eh bien, tenir les cartes dans sa main n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, pour les premières parties, les enfants ont tendance à plutôt étaler les cartes devant eux pour constituer leurs paires. Et constituer des paires peut être une petite gymnastique, d'autant que les cartes de chaque paire ne sont pas exactement identiques, même si chacune représente le même animal. Après, confidence pour confidence à la maison, pour gagner pendant longtemps, il fallait avoir le Mistigri. Et oui, dur de faire comprendre que le but du jeu était de se débarrasser de toutes ces cartes. Pour les parents, c'est un jeu qui vous replongera dans quelques souvenirs d'enfance. Et pourquoi ne pas tester, une fois les enfants couchés, la version Mistigri des habilleurs. Deuxième jeu évoqué aujourd'hui, un autre jeu de cartes très efficace à jouer à deux, s'inspirant du principe de la bataille, mais en l'enrichissant énormément. Il s'agit de Brave Rats, un jeu de Seiji Kanai, édité par Blue Orange, disponible au prix de 8,95€ chez Philibert. Il est recommandé à partir de 10 ans, mais largement accessible, selon ma propre expérience, dès 7-8 ans. Brave Rats est un jeu tout simple pour deux joueurs qui consiste en deux sets de 8 cartes représentant des rats en kilt. Oui, je sais, après les pingouins scolarisés d'high school, tout est possible. Ces rats en kilt, disais-je, appartiennent à deux clans écossais, les Applewood et les Yarks, qui s'affrontent depuis la nuit des temps. Pourtant, le prince de chacun des clans est amoureux de la princesse du clan antagoniste. Question thématique, c'est donc Roméo et Juliette chez des rongeurs calédoniens. Chaque joueur dispose ainsi d'un même set, composé de cartes figurant un membre du clan, le prince, la princesse, l'espion, le général, etc., etc., avec une valeur de 0 à 7, dotée d'un pouvoir spécial. Par exemple, la valeur la plus faible l'emporte, ou la manche est mise en attente et son sort dépendra alors de l'issue de la manche suivante. Pour gagner la partie, il faut faire plus de plis que son adversaire. À chaque manche, on joue la carte de son choix face cachée. Puis, simultanément, chaque joueur retourne sa carte. En principe, c'est la carte dont la valeur est la plus élevée qui permet de remporter le pli, comme à la bataille. Sauf bien sûr selon le pouvoir spécial de la carte jouée. Ainsi, si je joue ma carte de valeur 6, le général, et mon adversaire sa carte de valeur 3, l'assassin, je gagne en principe le pli. Sauf que le pouvoir spécial de la carte de mon adversaire prévoit que c'est la valeur la plus faible qui l'emporte. Et comme chaque joueur dispose du même set de cartes, eh bien on se creuse les méninges pour se souvenir de ce que l'autre a déjà joué et deviner ce qu'il pourrait bien jouer au prochain tour. Les parties sont ultra rapides, une dizaine de minutes, et s'enchaînent. Le jeu est fun, servi par des illustrations amusantes réalisées par Christophe Swall. Et c'est pourtant un jeu très stratégique. Car si Brave Rats reprend le principe de base de la bataille, la plus forte valeur l'emporte, tout ce qui rend ce jeu de cartes abominable, la bataille bien sûr, est ici évacué. Plus d'aléas, ben oui, on ne tire pas sa carte au hasard, hein, mais on la choisit. Les cartes ont des pouvoirs spéciaux qui impliquent donc de les jouer à bon escient.
et comme il n'y a que 8 plis, la partie n'est pas interminable. Car la bataille, ça peut durer très, 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 très longtemps. Dans la règle du jeu est intégré également un petit tableau synthétisant pour chaque cas de figure quelle carte l'emporte sur quelle carte, ce qui permet d'éviter des discussions âpres sur qui a gagné telle ou telle manche. Le matériel se résumant à 16 cartes, il tient dans une toute petite boîte que l'on peut emmener partout sans risquer de payer des frais d'excès de bagages à l'aéroport. Il n'y a toujours pas de contrepétrie. Bref, Brevrat est un jeu vraiment à recommander pour un prix ultra raisonnable, facile à sortir et avec lequel on s'amuse que l'on soit enfant ou adulte, même s'il n'en existe pas officiellement de version des habilleurs. Et non, on ne retire pas son kilt. Les enfants accrochent très bien tant au mécanisme du jeu, simple à appréhender pour eux, qu'au visuel des cartes. C'est tout pour cette chronique. Le mois prochain, je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, mais d'ici là, jouez bien, et surtout avec vos enfants.
Merci pour cette chronique, c'était sympa.
Oui, donc des jeux classiques. Hein.
Voilà, des jeux classiques, le Misty Gris. Alors donc toi, tu fais des strips Misty Gris.
En tout cas, je lance l'idée, hein, pour rentabiliser le jeu en fait.
Voilà, pour faire les soirées avec Dany, c'est ça ? Strip Misty Gris,
voilà.
Et ensuite...
C'est, après on tape sur Body Boggle, comme ça.
Et ensuite,
on a enlevé tous nos vêtements, on peut y aller. Bah, en même temps, voilà. Avec tes enfants, tu peux pas trop faire Misty Gris Massacreur, parce que bon, c'est un peu violent.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Et du coup, mais
surtout
voilà,
que t'as des ados qui sont à 4 ans, toi, c'est sympa.
Oui, bah, je trouve que la préadolescence commence très jeune maintenant.
Très jeune, c'est ça. Bah, moi, je me souviens d'une collègue qui nous parlait de ses enfants en bas âge. Elle disait, ouais, j'ai des enfants en bas âge, alors que bon, ils allaient au collège, un au collège et un au lycée. Alors, je sais pas si elle comprenait autre chose en bas âge, tu vois. Je sais pas si c'est un bas âge.
Ouais, c'est... Mais après, c'est question de peut-être valeur absolue, valeur relative
voilà,
par rapport à elle.
Ça.
Elle avait l'impression qu'ils étaient encore en
voilà.
Bas âge.
Ah tant ben, les coups.
Voilà. Tant qu'elle les allaitait pas encore, tout va bien.
C'est ça. Ça, je sais pas, mais je sais qu'elle les couvait beaucoup. Elle les amenait encore au lycée, en voiture.
Oui, mais il y a des gens comme ça, ils te parlent de leurs enfants, ils te disent les petits et ils font 1m90, ils ont 18 ans et là tu fais « Ah oui
!» Non, mais là, elle utilisait le terme « bas âge », donc je
ouais, c'est assez mignon.
J'ai jamais compris.
Ou c'était pour se rajeunir, peut-être.
Ouais.
Parce que parfois, c'est ça, quand tu dis que t'as un enfant de 20
c'est
ans,
ça.
Tout de suite, t'as un âge minimal qu'on t'accorde. Alors que si tu dis en bas âge, on peut se dire, bon, peut-être qu'il a 5-6 ans et on te rajeunit automatiquement.
Ah, d'accord. On voit que tu connais la technique.
Tout à fait, oui, oui. Je parle en connaissance de cause.
Ok, ouais, et Bravrat, j'aime bien aussi ouais, le jeu. Même si en couple, on a un peu du mal à jouer parce que la première carte, tu vois, on veut jouer une carte, paf, on joue forcément la même. Et alors la deuxième, on dit, attends, s'il a joué ça, je vais penser... Et paf, on rejoue la même.
Enfin, ça,
on est assez...
Sur la même longueur d'onde, donc...
Voilà, on est assez sur
bon
la même
signe.
Longueur d'onde. Voilà, c'est mon signe, sauf pour jouer à Bravrat.
Bah moi, j'y joue avec mon fils souvent et il m'éclate à chaque fois. Je suis désespérée, je pense que je n'ai jamais réussi à gagner contre lui.
Oh là là.
Donc c'est un peu la honte, quoi, mais bon.
Ça arrive. Hein.
Et je pense que ça arrivera de plus en plus, c'est ça qui est terrible. Sur plein d'autres jeux.
Et bon, du coup, pour finir, on va aller avec une chronique un peu plus adulte. Hein.
Mm.
La chronique de d'Acariatre. Ludo Incognito, il nous emmène cette fois-ci avec Jacques Henriot qui nous dit que tout peut devenir jeu. Et on va l'écouter tout de suite.
Ludo Incognito, à la découverte de la faune ludique. Sujet de recherche. Le jeu peut-il se passer du joueur ? Première expérience. Au cœur de Ludo Incognito, 15 décembre, 11h44. Observation de trois sujets au Moulinens dans un bar de quartier. Assis autour d'une table, les trois sujets semblent ignorer ma présence. Le sujet Antoine, que nous nommerons A, pose trois pierres brillantes au centre de la table. Les sujets B, Bruno, et C, Charles, posent chacun un sac en cuir devant eux. B en extrait deux pièces qu'il place devant lui et regarde en coin le sujet C. Celui-ci en pose trois à son tour sur la table. B fronce les sourcils, hésite un instant, puis sort deux nouvelles pièces.
En 1969, l'explorateur Jacques Henriot publie son essai sobrement intitulé « Le jeu ». Il y cite abondamment deux explorateurs anciens, déjà croisés par ici, John Huizinga et Roger Caillois. Mais pour leur reprocher bien vite d'avoir voulu définir le jeu comme un objet concret, qu'on pourrait simplement réduire à quelques caractéristiques bien choisies. Comme vu dans les épisodes précédents, Huizinga puis Caillois citent en effet comme critère du jeu un cadre temporel et spatial délimité et séparé du monde réel, la présence de règles, la liberté du joueur, l'incertitude du résultat et l'absence de production concrète réalisée par le jeu. Mais cette tentative de définition du jeu montre bien vite ses limites.
15 décembre, 11h48, suite de l'observation. Le ballet des pièces continue. Pendant ce temps, le sujet A entreprend de construire une pyramide de verre vide. Pendant quelques instants, il la contemple, visiblement satisfait, avant de reposer les verres sur un coin de table.
Si on respecte scrupuleusement les caractéristiques du jeu identifiées par Huizinga et Caillois, on met de côté beaucoup d'activités pourtant naturellement perçues comme des jeux. Un enfant qui joue avec un bâton, par exemple, ne semble pas suivre de règles ou viser à un résultat quelconque. Le badinage amoureux entre adultes n'est pas séparé du monde réel, mais s'avère ludique par bien des aspects. Si au contraire on choisit une vision large de ces critères, on arrive vite à la conclusion que tout est ludique. L'art, par exemple, l'humour, les rites religieux et institutionnels, le travail même parfois, vérifient en effet ces mêmes principes que l'on croyait réservés au jeu, codifiés et incertains, délimités dans le temps et l'espace, sans résultat tangible dans le monde réel, enfin pas plus que le jeu lui-même. Devant ce constat, Jacques Henriot ose l'affirmer, le jeu n'est définitivement pas un objet que l'on peut définir de la sorte.
15 décembre, 11h51, suite de l'observation. Les trois sujets semblent agités. Le sujet B pose une nouvelle pièce sur la table. C pousse un cri de rage avant de ranger l'ensemble de ses pièces dans son sac en cuir d'un geste nerveux. Le sujet B récupère les trois pierres, tandis que A balaye vers lui les pièces restantes. Il les place ensuite dans sa poche, à l'exception de deux qu'il jette sur le plateau du serveur qui arrive avec les boissons.
D'après Jacques Henriot toujours, une activité, même strictement identique pour un observateur extérieur, peut être ou ne pas être un jeu pour celui qui la pratique. Ce qui crée le jeu, en réalité, c'est donc la posture du pratiquant, et Henriot l'appelle l'attitude ludique. Le jeu est alors maintenant défini comme tout simplement ce qu'on pratique quand on joue. Dit comme ça, ça semble logique et un peu absurde, n'est-ce pas? Mais ce qu'il veut ainsi signifier, c'est que le jeu, l'essence du jeu, n'existe qu'en tant que situation. Ce qu'on appelle habituellement le jeu, l'objet jeu, n'est qu'un des supports possibles à cette situation ludique. Et d'ailleurs, en réalité, on peut mettre du jeu partout. Il suffit de lire la situation présente comme une situation ludique. Un défi lancé au travail, un geste qui soudain se pare de fantaisie, tout peut devenir jeu si on le souhaite ainsi.
15 décembre, 11h55. Suite et fin de l'observation. Les verres s'entrechoquent et la tension semble retomber. Le sujet A sort une boîte de son sac et en extrait un paquet de cartes qu'il distribue à B et C. Puis, il en sort trois objets en plastique coloré qu'il pose au centre de la table.
Ce qui fait le jeu, c'est la distance que crée le joueur avec la situation vécue. On dit en français qu'il y a du jeu quand une pièce ne s'emboîte pas bien dans une autre. Pour Jacques Henriot, le jeu, c'est ce va-et-vient constant du joueur entre la réalité et l'observation de cette réalité. Il suffit que le joueur prenne conscience de ce qu'il est en train d'accomplir pour que d'un coup, il puisse en jouer.
Le joueur, décidément, quel étrange animal!
Pour parfaire l'étude du jeu, Henriot insiste pour qu'on déconstruise le sens trop large du mot « jeu » en français. Comme en anglais, il faut en réalité distinguer l'objet, la structure, que l'on nomme « game », et l'action, la situation, que l'on nomme « play ». Pour Henriot, c'est ce play, trop souvent délaissé, qu'il faut replacer au centre de l'étude du jeu. Pour comprendre le jeu et ses implications, il faut tout simplement étudier les joueurs et ce qui les anime. C'est du bon sens. Pendant les fêtes, cultivez votre attitude ludique, votre fair play, et jouez bien.
Merci à Cariette pour cette chronique. Et alors, toi, est-ce que tu trouves que tout peut devenir jeu ou c'est trop subjectif?
Non, je pense que c'est pas faux la thèse qui est défendue, c'est que ce qui fait le jeu, c'est non pas tellement l'objet vu de façon pas objective mais assez impartiale ou très concrète, c'est plutôt ce que le sujet veut bien mettre derrière la notion de jeu. Donc finalement, c'est la conscience de jouer qui fait le jeu en lui-même, ce qui explique qu'effectivement, tout peut devenir un jeu pour peu que le sujet décide que ce le soit. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, sa chronique, parce que ça met en lumière toujours le débat qui est entre le subjectif, donc pas au sens le mot subjectif auquel on l'utilise fréquemment, c'est-à-dire un peu arbitraire. C'est plutôt sur vraiment le subjectif, c'est-à-dire le sujet versus l'objectif, l'objet. Qui lui va désigner plutôt une connaissance un petit peu indépendante, un peu réelle. Et ça nous renvoie aussi à la notion de réalité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réalité, une vérité vraie qui existe indépendamment du sujet ? Et il y a pas mal d'œuvres d'art qui s'interrogent là-dessus sur la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité ou une réalité exacte qui existe, ou bien si ce n'est que la réalité qui existe n'est que celle du sujet qui la voit ? Et donc, il peut y avoir autant de réalités que de sujets. Et du coup, je repense à un film que je vous conseille, qui traite exactement de ça, qui s'appelle L'oiseau au plumage de cristal, de Dario Argento, qui est un film des années 60. C'est un giallo, un film un peu violent, mais qui traite exactement de cette question, de ce qu'est la réalité par rapport, en fait, à la subjectivité de celui qui assiste ou qui vit cette réalité. Et c'est un super film. Et comme, en réalité... L'objet n'existe pas en dehors du sujet qui peut l'analyser et qui peut le vivre. Donc, je pense qu'effectivement, le subjectif est plus a plus presque de poids que l'objectif.
Tu veux dire que le monde il tourne que autour de moi par ma vue, quoi. Gens, c'est juste des acteurs qui sont là pour mon bon plaisir de remplir la rue devant moi, c'est ça ?
Bah en fait, un petit peu. Tu peux toujours te poser la question de savoir qu'est-ce qui existe vraiment, si ce n'est en dehors de ce que tu vois, finalement. Il y a même Matrix, c'est un peu la thématique, de ce que tu vois et ce qui est réel. Est-ce que la réalité, c'est le monde dans la matrice, ou bien c'est le monde en dehors de la matrice, puisque finalement, ce que tu vois, c'est ce qui est dans le film. Il y a un livre de K. Dick qui s'appelle Ubik, qui traite aussi un peu cette question-là, sur la réalité. Beaucoup de... C'est une question, on peut se... Et les bébés, par exemple, pendant longtemps, les enfants, ils pensent que s'ils ne voient pas les choses, les nourrissons, s'ils ne voient pas les choses, elles n'existent pas. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de jeux cachés ou pas avec les bébés pour leur montrer que les choses, elles peuvent exister en dehors de leur vision.
C'est un peu la caverne de Platon et tout ça.
Exactement, ouais. On va finir là-dessus
comme ça, mon prof de philo, s'il écoute... Et il dira, il aura au moins retenu un truc.
Exactement, c'est exactement l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire que ce qu'on voit n'est qu'une chose, une vision un peu. N'est qu'une vision subjective du monde dans lequel, qui nous entoure. Et d'ailleurs, j'avais un prof, moi, qui nous avait dit que Matrix était uniquement un film qui parlait que de la caverne. L'allégorie, il nous avait conseillé d'aller le voir pour mieux comprendre. C'était assez sympa.
C'est sympa, voilà. Donc on a commencé avec l'écriture inclusive et le féminisme, et on finit avec Platon.
Tout ça pour la grandeur de la nation française, quand même.
Voilà. Voilà, ça fait un beau résumé de ce podcast. Ok, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets qu'on a abordés durant cette émission.
Vous pouvez également nous contacter sur Twitter ou sur Facebook, et surtout notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires que vous ayez aimé ou pas, et surtout parlez de nous autour de vous.
Voilà, nous on se retrouve l'année prochaine, et d'ici là,
jouez bien.